Bonjour, bonjour à tous. Il est 9h, et bien 9h. Peut-être certains d'entre vous n'avaient pas encore réglé leurs cadrans, leurs montres et horloges hier. J'espère que tout le monde est à l'heure aujourd'hui, sinon vous commencez à être un petit peu en retard. Il est donc 9h. Bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Je suis Louis de Bernis et j'ai en ma compagnie Côme, bonjour.
Bonjour, bonjour Louis, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Ça va bien.
Ça va bien. Sur vos deux pieds ?
Presque.
Presque, et oui, il y a encore un peu de verglas. Et Côme, voilà.
Malheureusement, ce matin, une de plus.
Essaye de patiner mes chutes de temps en temps.
Oh, ça va, c'est l'expérience, on se forge de l'expérience.
Il est en un seul morceau et il n'a pas trop de bleu, en tout cas, je peux vous le dire. Voilà, il est souriant, tout va bien aller pour cette émission ensemble. Avec tout plein de sujets, et quels sont-ils ? Côme, je me tourne vers vous.
Eh bien ce matin, repartons un tout petit peu dans l'espace, parce que ça fait quand même quelques émissions, il me semble.
Les gens commencent à le demander,
voilà, c'est ça. Et en plus, alors on va associer Canada avec ça, parce que c'est le Canada qui s'associe à la NASA cette fois pour repartir sur la Lune. Mm-hmm. On va parler des grands-mères aussi, indispensables à notre survie apparemment. On pourrait parler d'Albert Einstein aussi un petit peu, et on verra les émotions comme les ah, les les wow.
Les émotions, voilà. Très bien, ça m'interpelle, j'ai envie d'en savoir plus. De mon côté, je vous en donnerai aussi des émotions avec toutes les insolites qui sont dans l'actualité. Je vous raconterai l'histoire de cet homme qui a survécu pendant 5 jours grâce à de la sauce à taco. Oui, c'est possible, voilà, si vous partez dans un climat extrême, bah, c'est possible, emporter de la sauce à taco. Également, pourquoi pas, d'une chèvre qui a été élue maire d'une ville, c'est pas si loin que ça, ça s'est passé dans le Vermont. Et également du plus grand labyrinthe gelé, glacé du monde, c'est au Canada également.
Excellent.
Tout ceci est au menu des voies de service aujourd'hui, c'est parti.
Et donc on va commencer avec le Canada effectivement qui s'associe à la NASA pour aller sur la Lune. C'est ce qu'a annoncé jeudi 27 février le Premier ministre Justin Trudeau lors d'une conférence de presse au siège de l'Agence spatiale canadienne en banlieue de Montréal. L'ASC, donc l'Agence spatiale canadienne comme on vient de le dire, va fournir un système robotisé intelligent, le Canadarm 3. Il permettra de réparer et d'entretenir la station Gateway, a-t-il précisé. Un tel bras robotisé canadien équipe actuellement la station spatiale internationale, par exemple. La NASA a prévu d'assembler en orbite lunaire une petite station, Gateway, d'ici 2026, qui servira de point d'étape pour les voyages Terre-Lune. Le Gateway lunaire n'est pas seulement l'un des projets les plus ambitieux entrepris à ce jour par l'homme. Non seulement la station servira d'avant-poste pour une présence à long terme sur la Lune, mais ce sera également la rampe de lancement pour Mars et au-delà, a déclaré M. Trudeau, soulignant que les États-Unis avaient demandé au Canada de les accompagner pour atteindre cette nouvelle frontière. Comme pour l'ISS, la NASA avait appelé d'autres pays à participer à ce retour sur la Lune, que ce soit en aidant à la conception des modules de la future station lunaire ou en assemblant les véhicules qui serviront à descendre sur la surface lunaire et à en revenir. La NASA vise un retour des astronautes sur la Lune en 2028, soit 56 ans après Eugene Cernan, dernier homme à avoir foulé la surface lunaire lors de la mission Apollo 17. Monsieur Trudeau a précisé que la participation du Canada à ce projet de la NASA s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle stratégie spatiale de son pays, pour laquelle il a annoncé un investissement de 2,05 milliards de dollars canadiens sur 24 ans. Washington a immédiatement salué cet engagement du Canada. Notre plus proche ami et partenaire, le Canada, vient avec nous dans cette aventure épique vers la Lune et Mars. Et nous ne pourrions être plus enthousiastes, a-t-il déclaré dans un communiqué à l'ambassadrice des États-Unis à Ottawa. Pour sa part, le patron de la NASA, Jim Bridenstine, s'est dit très heureux que le Canada devienne le premier partenaire international de l'avant-poste lunaire Gateway, estimant dans un communiqué que cette nouvelle collaboration permettrait de se rendre sur la Lune et peut-être sur Mars aussi.
Et bien, décidément, avec les Chinois qui y sont allés il n'y a pas longtemps, les Canadiens maintenant, tous les pays.
Et les Israéliens aussi, qui ont envoyé une sonde aussi il y a très peu de temps.
Effectivement, vous nous en aviez parlé, et bien tous les pays se lancent dans la conquête de l'espace. Intéressant. Et pour ces expéditions interstellaires, eh bien, j'ai un conseil à donner à tous les astronautes, cosmonautes qui se lanceront, emportés de la sauce à taco. Eh oui, parce que ça peut vous sauver la vie, en tout cas vous vous dépanner. C'est arrivé, alors c'était sur Terre, mais sans nul doute que ça fonctionnerait là-haut. C'est arrivé sur Terre à un Américain dont je vous parle ce matin. Coincé dans la neige pendant 5 jours, il survit grâce à de la sauce à taco. Un homme de l'Oregon qui a été sauvé après avoir été coincé dans la neige pendant 5 jours avec son chien est profondément reconnaissant envers ses sauveteurs et embarrassé d'avoir causé tant de problèmes, a déclaré sa tante à l'Associated Press lundi. Le véhicule de Jeremy Taylor s'est retrouvé coincé dans la neige sur une route isolée le 24 février dernier à l'extérieur de la ville de Bend dans l'Oregon. À la tombée de la nuit, M. Taylor, 36 ans, a décidé de dormir dans sa voiture avec son berger australien Ali et de partir à la marche le lendemain, a raconté sa tante Denise Tremaine dans un entretien téléphonique. M. Taylor a confectionné des raquettes à partir de morceaux du porte-kayak qu'il avait sur son toit et s'est mis en marche le 25 février. Mais après 1,5 km, il a dû faire demi-tour parce que son chien s'enfonçait dans la neige épaisse et ne pouvait plus continuer. M. Taylor a ramené Ali à la voiture et ils s'y sont réfugiés, partageant un sac de couchage pour se réchauffer. M. Taylor avait un réservoir d'essence plein et était capable de chauffer brièvement le véhicule quand il faisait extrêmement froid. Il a mangé quelques sachets de sauce taco qu'il avait avec lui, a ajouté sa tante, pour la seule nourriture qu'il avait donc dans la voiture. Son chien et lui ont bu de la glace fondue, ben oui quand même ça c'est pratique au moins pour ça, mais Madame Tremaine a précisé qu'elle ne croyait pas que son neveu avait donné de la sauce piquante au chien. Éventuellement, a expliqué Madame Tremaine, la neige abondante qui a continué à tomber a empêché M. Taylor d'ouvrir la porte de son véhicule. Et là je me mets à sa place, ça devait être quand même assez inquiétant. À un certain moment, il a vu, entendu passer un avion au-dessus de sa tête. Il a donc tenté de pousser la neige hors du toit de la voiture afin que les sauveteurs puissent le voir, mais cela n'a malheureusement pas fonctionné. Précisons qu'il n'avait bien sûr pas de téléphone portable, ce qui aurait permis de le sauver un peu plus rapidement avec lui, ni de fourniture d'urgence, a ajouté sa tante. Ce que M. Taylor ignorait, c'est que le 27 février, ses amis s'étaient rendus compte qu'il avait disparu seulement 2 jours après sa disparition. Il ne s'était pas présenté au travail et personne n'avait eu de ses nouvelles. Des amis l'ont donc rapporté disparu et il y avait à sa recherche des équipes de recherche et de sauvetage qui ont parcouru les forêts près de Bend en utilisant notamment motoneige, un avion également et un drone. Et merci donc à la sauce taco.
Oui, effectivement. Et on le rappelle comme Monsieur Taylor l'a fait, si jamais vous vous retrouvez coincé dans un endroit comme ça, ne pas boire la neige directement, ne pas la manger. Il faut la faire fondre avant.
Oui,
éviter les brûlures.
Exactement, merci.
Petit conseil survie de la journée.
Les petits conseils survie des voies de service. Merci, Com.
I'm moving on. ça sonne rétro et pourtant ce ne l'est pas. La formation de Shadowboxers et la pièce Build the Beat.
Merci Jean-Sébastien. Après donc le sauvé des, non pas des eaux mais des neiges, parlons d'une autre personne qui est sauvée, je crois bien. Je vous écoute.
Effectivement, une autre personne sauvée, une deuxième personne qui a connu une rémission durable du VIH, ce virus donc à l'origine du sida. Après avoir interrompu son traitement et donc est probablement guéri, doivent annoncer les chercheurs lors d'une conférence. En fait, je pense que ça a déjà été annoncé, il me semble. Enfin bref. 10 ans après le premier cas confirmé d'un patient souffrant du VIH, s'étant remis de cette maladie mortelle, un deuxième cas, connu comme le patient de Londres, qui n'a pas montré signe d'être atteint du virus depuis près de 19 mois, ont rapporté les chercheurs dans le journal Nature. Les deux patients ont subi des transplantations de moelle osseuse pour traiter des cancers du sang, en recevant des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. En parvenant à une rémission sur un deuxième patient, tout en utilisant une approche similaire, nous avons montré que le patient de Berlin, donc qui était ce premier patient à s'être remis, n'a pas été une anomalie. S'est félicité le principal chercheur Ravindra Gupta, professeur à l'université de Cambridge, en faisant référence donc au premier cas mondial. Des millions de personnes infectées par le VIH à travers le monde contrôlent cette maladie à l'aide d'une thérapie antirétrovirale, ARV, mais ce traitement ne débarrasse pas les patients du virus. En ce moment, la seule façon pour traiter le VIH est par l'administration de médicaments qui contiennent le virus et que les gens doivent prendre toute leur vie, a dit M. Gupta. Cela représente un défi particulier dans les pays en voie de développement, où des millions de personnes n'ont pas accès à un traitement adéquat, a-t-il ajouté. Près de 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, mais seulement 59% d'entre elles bénéficient d'ARV. Près d'un million de personnes en meurent chaque année. Une nouvelle forme de VIH résistante aux médicaments représente donc une préoccupation grandissante. M. Gupta et son équipe soulignent que la transplantation de moelle osseuse, une procédure donc dangereuse et douloureuse, n'est pas une option viable pour le traitement du VIH. Mais ce deuxième cas de rémission et probable guérison à la suite d'une telle transplantation va aider les scientifiques à réduire le nombre de stratégies de traitement. Le patient de Londres, ainsi que le patient de Berlin, ont subi des transplantations de cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique qui rend inopérant un récepteur du VIH, connu comme CCR5. Trouver un moyen d'éliminer complètement le virus est une priorité urgente globale, mais c'est particulièrement difficile car le virus pénètre des cellules blanches du sang de l'hôte. L'étude se penche sur ce patient anonyme en Grande-Bretagne qui a été diagnostiqué comme atteint du VIH en 2003 et qui a suivi une thérapie antirétrovirale depuis 2012. Plus tard la même année, il a été diagnostiqué comme atteint d'une forme avancée de la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Il a subi en 2016 une transplantation à base de cellules souches hématopoïétiques d'un donneur porteur d'une mutation du gène CCR5 qui n'est présente que chez 1% de la population mondiale. Le VIH utilise la plupart du temps ce CCR5 comme récepteur. La mutation du gène du CCR5 en question empêche le virus de pénétrer dans les cellules hôtes, ce qui rend les porteurs de cette mutation résistants au virus du sida. De la même façon que pour le cancer, la chimiothérapie peut être efficace contre le VIH puisqu'elle tue les cellules qui se divisent. Mais c'est le remplacement des cellules immunes par celles qui n'ont pas le récepteur CCR5 qui apparaît être clé pour prévenir la réapparition du VIH après le traitement. Après le transplant de moelle osseuse, le patient de Londres a suivi l'ARV pendant 16 mois, puis le traitement a été interrompu. Des tests réguliers ont confirmé que la charge virale du patient était indétectable depuis. Le patient de Berlin, soigné pour une leucémie, avait subi 2 transplantations ainsi qu'une irradiation sur l'ensemble du corps. En revanche, le patient de Londres a reçu une seule transplantation et une chimiothérapie moins agressive. L'équipe de chercheurs présente ses résultats lors de la conférence annuelle sur les rétrovirus et les infections opportunistes à Seattle. Et donc, le deuxième cas renforce l'idée qu'une guérison est possible, a déclaré à l'AFP Sharon R. Lewin, directrice de l'Institut Doherty et professeure à l'Université de Melbourne. Une transplantation de moelle osseuse n'est pas viable pour guérir, mais on peut essayer de déterminer quelle part de la transplantation a fait la différence pour permettre à cet homme de cesser de prendre ses médicaments antiviraux.
Et donc on progresse, on va finir par y arriver, je suis plein d'espoir.
Oui, sans aucun doute.
Allez, elle va être un peu tirée par les cheveux, mais je la tente, cette transition. Vous nous parliez du corps humain, de son fonctionnement sinueux et intéressant. Et bien c'est sûr. Une forme de labyrinthe,
ah,
donc.
Effectivement.
Eh bien, je vous parle d'un labyrinthe, justement. Celui-ci n'est pas fait de cellules et de vaisseaux sanguins, mais de glace, de neige. Et c'est d'actualité, puisqu'on s'est repris une petite neige sur la tête ces derniers jours. Je vous emmène au Manitoba, où le plus grand labyrinthe de neige du monde attire les touristes. Il a demandé un mois de travail à un couple d'agriculteurs du Manitoba et vient d'être homologué officiellement par le livre des records Guinness, le plus grand labyrinthe de neige du monde. Il mesure 2789,11 mètres carrés, très précisément. C'est taille raisonnable. Situé au sud de la ville de Winnipeg, il est devenu une véritable attraction touristique. Jusqu'ici, Clint et Angie Mass, agriculteurs dans le petit village de Saint-Adolphe, à proximité, s'était fait une spécialité des labyrinthes de maïs pendant l'été, avant d'un jour changer de saison, malgré l'immense charge de travail qui les attendait. « Nous avons décidé de fabriquer notre propre neige. Rien que ça, ça nous a pris 2 à 3 semaines. Ensuite, nous avons commencé à construire le labyrinthe et il a fallu 370 camions semi-remorques chargés de neige pour construire le labyrinthe. » Voilà qui, moi, me parle plus, en tout cas, que les mètres carrés. 370 camions semi-remorques.
Ça fait quelques camions. Ça...
Au final, la structure est composée de murs mesurant environ 1,80 m de haut. Au sol, la neige est tassée sur 50 cm afin d'éviter qu'elle ne fonde trop vite et que les visiteurs pataugent dans la gadoue. Grâce à cet ouvrage qu'ils ont ouvert au public pour la première fois cet hiver, le couple a largement détrôné l'ancien record, détenu par un labyrinthe situé dans le parc historique de Fort William, en Ontario. Mais réaliser leur rêve avait un coût, 57 000 dollars pour être très précis. Et fabriquer de la neige coûte extrêmement cher, a souligné M. Mass. L'agriculteur a aussi dû surmonter quelques difficultés dans la conception de son dédale blanc. Cela m'a pris bien une semaine pour le dessiner, quand il me faut un jour et demi pour faire un labyrinthe de maïs, relève-t-il. Depuis son ouverture début janvier, le labyrinthe ne désemplit pas et attire de nombreux curieux malgré les températures glaciales descendant régulièrement sous les 30 degrés Celsius. À l'intérieur, des statues de neige et de glace attendent les visiteurs qui peuvent tout de même se réchauffer. 5 aires de repos avec tables et feux de bois sont parsemées entre les murs blancs. Les repérer devient un défi et elles servent aussi d'aide pour trouver la sortie. C'était vraiment amusant parce qu'il fallait qu'on trouve les bras zéro. C'est comme ça, en fait, qu'on savait où on allait, sinon on n'avait aucune idée, racontent Gillian Crooks et Cassidy Wagner, deux jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années, ayant bravé des températures de moins 35 degrés Celsius pour aller explorer, pour la première fois de leur vie, un labyrinthe. Trouver la sortie nous a pris pas mal de temps. On n'a pas chronométré, mais peut-être une demi-heure, ajoute Cassidy Wagner. De son côté, Clint Mass estime qu'il faut entre 30 et 45 minutes pour parcourir le labyrinthe de bout en bout. L'attraction devrait rester ouverte encore quelques semaines car le froid polaire qui a enveloppé la province des prairies canadiennes en février a protégé l'infrastructure. Un coup de pouce de la nature grâce auquel Clint Mass espère maintenant franchir la barre des 10 000 visiteurs et ainsi, eh bien, tout simplement rentabiliser son bel investissement.
Il pourra repartir sur du maïs cet été.
Oui, exactement. Peut-être un autre plan quand même pour surprendre un peu les visiteurs.
Pourras-tu le faire ? Pourras-tu le dire ? Tu dois tout essayer, I'm lost. Tu dois devenir, tu dois voir plus loin, tu dois revenir, égaré en chemin, I'm lost. Tu verras le pire, pour trouver le sud, sans perdre le nord. Après la certitude, I'm lost, au-delà des bords, I'm lost, but I'm not stranded yet. Lost but I'm not stranded. Dans les yeux des femmes, dans la Marie-Jeanne, dans la technocité, I'm lost pour manipuler. Grand combat de chair, I'm lost. Colline enflammée, I'm lost. Dans l'ombre ou la lumière, I'm lost pour l'halluciner, pour courir ventre à terre, brouillard et fumée, consommer, consumer. Cracher de l'air dans le dérisoire, I'm lost. Dans les accessoires, I'm lost. Dans le feu des possibles, au cœur de la cible, dans la paranoïa, dans la schizophrénia, un maniaque opéra, I'm lost, pharmacopéra, I'm lost, but I'm not stranded yet, lost, but I'm not stranded.
Mes camarades m'ont joyeusement chicané tantôt parce qu'il n'y avait pas un lien direct entre leurs articles et mon choix musical. Alors je me reprends, on vient de parler de labyrinthe. Qu'est-ce qui peut se passer dans un labyrinthe? On peut se perdre. Eh bien, on vient d'entendre Noir Désir, Lost.
Merci beaucoup Jean-Sébastien d'être autant à notre écoute et de se plier à nos moindres caprices comme ça. Nous ne sommes plus deux, nous sommes trois dans le studio. Yves-Olivier est arrivé, bonjour.
Bon matin.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Excellent, très bien. Et nous allons eh bien, ramener aller un peu de sérieux comme d'habitude dans l'émission. Un sujet de société, si,
oui,
quand même.
Mais
un
celui-là,
peu.
Il est léger. On va commencer léger. Ça va être un peu plus sérieux après. Mm-hmm. Mais là, on commence par les cabanes à sucre. Mm-hmm. C'est vrai que ça aussi, c'est sérieux.
Hein.
C'est un de nos sports nationaux. Ici, surtout au mois de mars, avril. Donc, les cabanes à sucre qui deviennent VG. C'est un texte de Stéphane Blais de la Presse canadienne. Donc c'est le début de la saison des sucres. Avec le redoux prévu dans les prochains jours, des milliers de gourmands se donneront rendez-vous dans des cabanes à sucre pour renouer avec les traditions culinaires d'autrefois. Mais de plus en plus de cabanes s'adaptent au goût du jour. On y offre par exemple des oreilles de cris sans porc, des févolards sans lard et d'autres mets végétariens ou végétaliens. Une simple recherche de la Presse canadienne a permis de trouver une dizaine de cabanes à sucre qui offrent des menus sans viande au Québec. Voici un tour d'horizon d'une tradition qui se modernise. Samedi matin, à la sucrerie du Domaine, Patrick Noël, le patron, a peu de temps pour discuter avec la Presse canadienne. Parce que c'est qu'après 10 heures, c'est la folie, lance-t-il au bout du fil. C'est la première année que sa cabane à sucre, située dans la région de Lanaudière, offre un menu végétalien. C'est une très belle saison qui s'annonce et la cabane est presque réservée à pleine capacité jusqu'à la fin des sucres. Patrick Noël estime que sa clientèle a augmenté de 30% cette saison et cet achalandage s'explique en partie par l'arrivée sur son menu de fèves au lard par lard. De cretons végétaliens ou encore de tourtières végétaliennes faites à base de champignons et de lentilles. Le propriétaire de la sucrerie du Domaine explique que ce sont surtout des clients réguliers qui adorent pourtant la viande et qui lui ont demandé d'avoir des plats végétaliens. Les clients qui aiment beaucoup notre viande nous disaient qu'au lieu d'être un groupe de 20 personnes, ils seraient au nombre de 26 si nous avions un menu végétalien. Alors on s'est adapté. On est une cabane hyper carnivore, donc c'est un peu de la bipolarité culinaire, explique en riant celui qui croit que la tendance végétalienne est là pour rester et n'est pas seulement qu'un effet de mode. En Montérégie, le copropriétaire de la cabane à sucre Huntfield a lui aussi vu sa clientèle bondir depuis qu'il propose un menu sans viande, tout en conservant le menu traditionnel. On a commencé ça il y a 4 ans à la demande des clients et maintenant c'est la folie. Depuis les menus sans viande, il y a une augmentation de la clientèle de l'ordre de 30 à 40%. A précisé Louis-Robert Huntfield à la Presse canadienne. Il n'y a plus de lard dans nos fèves au lard et je défie n'importe qui de s'en apercevoir, a-t-il ajouté.
C'est gentil de.
Eh bien, c'est quand même appétissant, je dois dire. Après, c'est vrai que ça fait, c'est difficile à imaginer, mais ma foi, tant qu'il y a encore le sirop d'érable, on est sauvé si on peut encore en mettre partout.
C'est ce qui compte.
C'est l'essentiel. Prenons une petite pause et puis nous revenons pour la seconde partie de l'émission ensemble. À tout de suite. Prenons dans la famille des voies de service avec un sujet familial comme...
Effectivement, ces êtres qui nous sont très chers à tous, qui nous servent beaucoup, hein, mm-hmm. qui sont là pour nous, sont les grands-mères. Non, je vais y aller tout simplement, je vais faire un commentaire. Finalement, non. C'est la fête des grands-mères et les sciences de l'évolution leur rendent un nouvel hommage à leur façon. Deux nouvelles études, parues en février 2019 dans la revue Current Biology, explorent ainsi le rôle qu'ont eu les babouchkas, nona, yaya et autres mamies du monde entier sur l'espèce humaine et son évolution. Sous cet angle, les chercheurs se demandent régulièrement pourquoi, dans notre espèce, les femmes vivent aussi longtemps après la fin de leur période de reproduction. Une rareté chez les mammifères seulement partagée par quelques espèces marines, comme les orques, les belugas, les globicéphales ou les narvals. Même chez nos plus proches cousins primates, aucune espèce ne connaît une telle longévité post-ménopause. Les femmes pourraient vivre au-delà de leurs années de reproduction parce qu'elles aident leurs petits-enfants à survivre. C'est cette hypothèse des grands-mères, explorée pour expliquer cette longévité chez l'humain, qui est à nouveau confortée par ces études. La première s'est concentrée sur les données des registres paroissiaux de Finlande des 18e et 19e siècles. Les chercheurs montrent ainsi qu'à cette époque, le taux de survie des petits-enfants jeunes était supérieur de 30% lorsque leur grand-mère maternelle vivait à proximité et était âgée entre 50 et 75 ans. L'aide des grands-mères est centrale dans les familles humaines tout autour du globe, mais nous montrons que la capacité à venir en aide aux petits-enfants décline avec l'âge des grands-mères, explique Virpi Luma de l'université de Turku en Finlande. Ainsi, l'analyse des données montre que le fait de vivre avec une grand-mère, paternelle cette fois, de plus de 75 ans, avait au contraire un effet négatif sur la survie des petits-enfants. Les mauvaises langues penseront probablement à un effet belle-mère. Mais les chercheurs montrent surtout que, passé un certain âge, et donc un état de santé probablement détérioré, l'effet bénéfique s'estompe. La deuxième étude met en lumière une autre limitation à l'effet bénéfique des grands-mères sur leurs petits-enfants, la distance géographique. Nous montrons d'abord que les femmes dont les mères étaient en vie avaient plus d'enfants, et qu'un plus grand nombre de ces enfants atteignaient l'âge de 15 ans, explique Patrick Bergeron de l'université Bishop au Canada. Un détail important à une époque où la mortalité infantile était très importante. Mais nous avons constaté que l'effet grand-mère diminue à mesure que la distance géographique entre la grand-mère et la fille et sa fille s'accroît. Ainsi, une grand-mère située à 350 km n'avait plus d'impact significatif sur l'avenir de sa descendance. Des résultats obtenus à partir d'un jeu de données d'une précision exceptionnelle, selon les chercheurs, issus des premiers colons français du XVIIe et XVIIIe siècle dans la St. Lawrence Valley au Québec. Ces nouvelles données confortent ainsi l'idée que les grands-mères jouent un rôle déterminant dans la survie de leur clan, comme cela avait du reste déjà été montré chez les orques, qui, après leur ménopause, restaient vitales au groupe. Les femelles ménopausées sont des meneuses de groupe bien informées, écologiquement éduquées, qui aident les plus jeunes membres de leur communauté à trouver de la nourriture, particulièrement lors des périodes où les proies se font rares, expliquait donc la biologiste Lauren Brett de l'université d'Exeter.
Et nous saluons donc toutes nos grands-mères, que nous les embrassons et merci.
Merci.
Merci alors.
C'est grâce à elles.
Vous nous parliez en début d'article de l'originalité, que cette particularité qu'ont les belugas, les baleines, les orques, tout ça. Eh bien, je vous parle de baleines,
ah,
alors.
Magnifique.
Oui, elles ne sont pas faciles aujourd'hui, mais écoutez, je les
Bravo,
tente.
Louis, hein,
je les tente.
Faut être bon hein, pour rebondir sur un sujet à com. Faut être cultivé.
Un peu de métier. Je travaille ça toutes les fins de semaine. Je vous parle d'une baleine qui a bien failli avaler un plongeur. Depuis plusieurs jours, les images de sa mésaventure affolent la toile. Un plongeur sud-africain a échappé par miracle à la mort la semaine dernière après avoir été brièvement avalé par une baleine au large de Port-Élisabeth. La Bible raconte que le prophète Jonas avait passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Rainer Schimpf a connu la même expérience, mais quelques secondes seulement, heureusement pour lui, alors qu'il se trouvait dans un banc de poissons. J'avais commencé à filmer des dauphins, des requins, des foudbassans, des pingouins et des cormorans qui se nourrissaient de sardines. Lorsque, venant des profondeurs, un rorqual de Bride a subitement surgi, gobant tout sur son passage, a raconté le défenseur de l'environnement. J'ai senti une pression autour de ma taille, j'ai su immédiatement ce qui était en train de se passer, a-t-il ajouté. Ça n'a été l'affaire que de quelques secondes avant que le rorqual réalise son erreur et ouvre la gueule pour me recracher. L'épouse du plongeur, Silke, et un photographe ont assisté avec effroi et dûment documenté la scène. Sur quelques images, seules les deux jambes de Rainer Schimpf émergent de la gueule du prédateur. Un spécimen rare de rorqual de Bride, des cétacés pouvant atteindre 15 mètres, se nourrissant de petits poissons et petits crustacés. À peine remis de ses émotions, le plongeur miraculé n'a pas hésité longtemps avant de se rejeter à l'eau. Ça, je ne sais pas si j'aurais eu le courage. On a vérifié que le matériel était ok, que je n'avais ni eau brisée ni côte fêlée. Tout était en place, a-t-il raconté, avant d'ajouter avec un grand sourire. Dopé à l'adrénaline, je ne voulais pas rater cette séance d'appât. Je suis retourné à l'eau, cette fois à la recherche de requins. Bah oui, tant qu'à faire, quand on sort d'un danger, autant se jeter dans un plus grand danger. Monsieur Schimpf, 51 ans, est loin d'être un débutant. Avec 20 ans d'expérience dans le métier et plusieurs récompenses à son actif, il est parfaitement conscient des risques qu'il court. Les prédateurs, comme les baleines ou les requins, foncent sur leur proie. Et souvent, notre visibilité est extrêmement réduite, constate-t-il. Mais pas question de renoncer à sa mission. Notre détermination à garantir à l'environnement les plus grandes attentions et protections reste sans faille. Et si je devais renaître, philosophe Rainer Schimpf, j'aimerais que ce soit sous la forme d'une baleine, a-t-il dit. En attendant son éventuelle réincarnation, donc, son interprétation involontaire de Jonas a fait de lui une vedette sur les réseaux sociaux. Les images de son expérience ont déjà dépassé la barre du 1 million de vues sur YouTube.
Petite question. Tantôt, tu disais ça, les jambes dépassaient.
Oui.
Mais c'est quoi, il n'a pas de dents? Il n'a pas de...
Non,
la baleine n'avait pas de dents pour...
Non, je ne pense pas.
Non, c'est une grande lèvre, si on veut.
Du coup, on devine, c'est par hasard. Elle l'a juste régurgité parce qu'elle aurait pu l'avaler, en fait, c'est ça ou...
Elle aurait pu... Alors, peut-être pas l'avaler jusqu'à l'estomac, mais dans la gueule en entier, ça, oui. Ça, oui. Mais à l'arrivée des profondeurs.
Imaginons l'état de panique à ce moment-là, quand tu as la moitié du corps dans une baleine.
Une situation qu'on ne souhaite à personne.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout, le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné, que par amour ils nous lacèrent, mais voir un ami pleurer.
Le grand Jacques Brel qui vient de nous offrir une de ses très belles pièces. Je n'irai pas jusqu'à dire une de ses plus belles car elles s'équivalent tous. On vient donc d'entendre voir un ami pleurer.
Une très jolie chanson, effectivement, Jean-Sébastien, merci. Et une chanson liée au sujet que nous allons aborder maintenant.
Oui, tout à fait. Parce que s'il y a bien une raison qui peut faire qu'un ami pleure, c'est la perte d'un être cher. Mm-hmm. Par exemple, un camarade de classe.
Un camarade de classe.
Ça vous est arrivé, messieurs?
Camarade de classe, non, mais je me souviens, étant assez jeune, j'avais le père d'un bon ami qui malheureusement était parti. Et oui, quand on est... Alors, je ne sais pas de quels âges vous allez parler.
C'est plutôt jeune.
Plutôt jeune, bon, ouais, bah, c'était un peu mon cas. On est un peu désemparés, ouais, effectivement. Hein. On ne sait pas trop quel mot choisir.
Puis vous avez été témoin de la tristesse de l'ami, je veux dire.
Mais oui, quelques jours après, quand il revient à l'école et reprend la vie normale, ouais. Oui, ça perturbe.
Bah alors justement, ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, on n'y pense pas nécessairement jusqu'à ce que ça nous arrive. Et c'est pour ça en fait que, encore une fois, Marie Allard de La Presse qui va nous parler de ce genre de sujet-là, c'est comment dealer avec le deuil dans une cour de classe à un âge très bas pour les enfants. Donc 7 enfants d'une même famille sont morts dans l'incendie de leur maison à Halifax, donc c'était récemment. Nombreux sont les jeunes qui ont entendu parler de cette tragédie. Cela n'arrive pas qu'ailleurs. C'est un peu l'impression qu'on a, effectivement, jusque ça nous arrive. Et plus de 400 enfants de 14 ans et moins sont morts au Québec en 2017. Même si la plupart étaient des bébés, les écoliers n'ont pas de garantie anti-feu, anti-maladie ou anti-accident de la route, malheureusement. Dans une classe de 4e année du primaire, une fillette est morte subitement après s'être plainte de maux de tête, tandis qu'un garçon luttait contre un inquiétant cancer. Geneviève Pichet avait enseigné à ses élèves et à leurs camarades ébranlés. Aussi auteur, elle a tiré de cette éprouvante expérience un roman jeunesse qui s'appelle 25-1, publié chez Québec Amérique. Oui, ces deux enfants étaient en 4e année. Je leur avais enseigné en 2e année, dit-elle. L'année où c'est arrivé, je n'étais pas à l'école. J'enseigne 2 années sur 3 et j'écris ensuite. Je suis quand même allé y faire un petit coucou et on m'a dit « Geneviève, assis-toi, on a une mauvaise nouvelle ». On m'a annoncé que Thomas, à qui j'avais enseigné en 2e année, avait une tumeur de grade 4. Ça m'a scié les jambes, vraiment. Puis le téléphone a sonné au mois de novembre. On m'a dit « Geneviève, un élève est décédé ». Tout de suite, j'ai pensé « Non, pas Thomas ». On m'a annoncé le décès d'une autre élève, que j'avais appelée Emeline dans mon roman. Depuis, ces événements m'habitaient. Je me suis dit que j'allais écrire là-dessus. J'ai interrogé l'enseignante de la classe pour savoir comment les enfants avaient vécu cela, même s'il y a de la fiction dans le roman. Elle m'a dit que très rapidement, les enfants passent à autre chose. Ce sont des moments précis, comme le pupitre vide sortant de la classe, qui viennent soulever toute la charge émotive. Je me suis imaginé différents types d'enfants et je me suis fié à ma propre sensibilité pour pouvoir voir comment, comme enfant, pardon, j'aurais réagi. Mon personnage d'Emeline est une enfant pleine de vie qui a aussi souvent des conflits. Je me suis demandé comme son décès a été tellement subi, comment un enfant qui a vécu un conflit avec elle va vivre après sa mort avec la culpabilité. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que votre roman s'adresse au lecteur de 9 ans et plus ? C'est l'important de parler de la mort aux enfants ? Est-ce que c'est important de le faire ? Sa réponse est oui, parce que quand ça arrive, on est complètement démuni. Dans le livre, même après qu'on a expliqué la permanence de la mort, un petit bonhomme dit « Est-ce qu'Emeline va être là demain ?» C'est parfois la première fois que les enfants sont en contact avec quelque chose d'irrémédiable. Prochaine question, c'est est-ce que c'est plus dur à accepter pour les adultes, le deuil d'un enfant ? Je pense que oui, on sait tous qu'on perd. Ce que j'ai trouvé le plus difficile à écrire, ce sont les lettres que l'enseignante écrit à la petite. Dans le roman, l'enseignante s'adresse à Emeline après sa mort dans un cahier mauve qu'elle s'échangeait. Parce que c'est vraiment moi qui les écrivais à cet enfant-là. Ce qui est particulier, c'est que j'ai terminé l'écriture de ce roman en accompagnant ma mère en fin de vie. Ça a teinté ma réécriture. Le départ, l'absence définitive, je le vivais réellement. On ne peut quantifier la souffrance causée par la mort, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. C'est la façon de vivre le deuil, de réagir à l'absence définitive qui est différente. L'enfant vit le moment présent. Quand la cloche de la récréation sonne, l'enfant va jouer. Il rit, il s'amuse. Il se tourne naturellement vers la vie. Et donc la question qui est posée à l'auteur, c'est pourquoi avez-vous voulu écrire ce roman ? Ben, au-delà du choc causé par la mort et la maladie et la mort d'élèves auxquels elle s'était attachée, c'était son désir de faire quelque chose, de réagir à l'impuissance qu'elle a ressentie, qui l'a poussée à écrire là-dessus. Continuer de faire exister sa petite Emeline, capter la lumière à travers l'épreuve de la maladie et aussi questionner sa façon d'être vivante. Donc les propos de Geneviève Pichet ont été édités en raison d'un espace limité.
Et effectivement, je pense que c'est toujours une meilleure idée, oui, d'en parler avec les enfants, de mettre des mots dessus, parce que bah, bien souvent, de ces silences-là naissent ensuite, plusieurs années après, des traumatismes encore.
Oui, puis éviter d'être démuni quand le sujet va arriver, ça. De toute manière. C'est...
Et tout à fait. Bon, dans cet article, il est question aussi de psychologie, donc de ne pas hésiter, justement, si c'est le temps de justement
se faire aider.
Exactement, donc même pour les enfants bas âge.
Merci beaucoup Yves-Olivier.
Et dans ce même sujet, ce vendredi à notre antenne dans le cadre de l'émission On est tous des humains, émission spéciale sur le deuil, donc ce vendredi 15 mars à midi.
Merci.
Et nous revenons donc avec, je l'espère, un sujet un petit peu plus joyeux, qui ne va pas nous mettre de mauvaises émotions toute la journée. On va parler des interjections.
Ah oui, les émotions dont vous nous parliez.
Exactement, exactement. Qu'est-ce que ce sont donc ces interjections, on va y arriver. Ce sont des sons qui sortent tout seuls et qui, croit-on, ne sont pas censés prêter à une grande interprétation. Pourtant, il se passe beaucoup de choses dans nos... Et autre, waouh, 24 catégories d'émotions différentes pour être exact. C'est le bilan d'une étude menée par des chercheurs en psychologie de l'université de Berkeley en Californie et publiée dans la revue American Psychologist. L'équipe a fait enregistrer 2032 interjections de ce type par 56 personnes de 18 à 35 ans. Certains acteurs et d'autres pas, originaires des États-Unis majoritairement, ou bien d'Inde, du Kenya et de Singapour. Elles avaient pour instruction de réagir de cette façon à des scénarios qu'on leur soumettait. Puis, un millier d'autres personnes, entre 18 et 76 ans, tous américains cette fois, ont été recrutées sur la plateforme collaborative Mechanical Turk d'Amazon pour écouter ces exclamations et les évaluer, sans savoir bien sûr dans quel contexte elles avaient été prononcées. La méthode a consisté pour chaque personne et pour chaque son à lister par ordre alphabétique les 13 émotions entendues. À partir de quoi, les chercheurs ont procédé à une analyse statistique sur les composantes émotionnelles de chaque exclamation. Ils sont arrivés, au final, à distinguer 24 émotions différentes. Ils en ont alors fait une carte interactive, permettant de naviguer dans les nuances de sons exprimant la satisfaction, la colère, la surprise, bonne et mauvaise, La peur, l'intérêt, la confusion, le mépris, le dégoût, etc. Chacune de ces émotions est en effet décortiquée, comme l'indique une mention en haut à gauche de l'écran. Ainsi, selon l'endroit où l'on pointe le curseur de la souris dans la zone tristesse, on peut entendre un son fait de 83% de tristesse, de 8% de détresse et 8% de souffrance. Ailleurs, il sera composé de 50% de tristesse, 17% de détresse, 8% de confusion, 8% de mépris et 8% de mauvaise surprise. Les exclamations de colère peuvent être mêlées d'amusement et de dégoût ou de mépris, de détresse et d'intérêt. Bien sûr, la limite principale de cette étude réside dans ce que les sons ont été évalués par des Américains et correspondent à une culture, des catégories et un ressenti qui n'a rien d'universel. Mais pour les chercheurs, c'est un premier pas, pour par exemple peaufiner les usages d'assistants vocaux et rendre plus précis leurs réponses aux requêtes par une meilleure identification des émotions véhiculées par la voix de l'utilisateur. Des usages médicaux sont aussi envisagés dans le suivi de personnes atteintes de démence ou d'autisme. Et donc cette carte interactive peut être retrouvée directement sur le site de l'Université de Berkeley.
Moi, ce qui m'amuse avec ces interjections à chaque fois, je pense que c'est beaucoup plus culturel que naturel. Et ce qui m'amuse toujours, c'est de voir les enfants qui ont les moules, les expressions des stars qu'ils voient à la télé. Ça me fait toujours
rien que sourire. Un exemple très simple, il me semble que chez les francophones, pour de la douleur, on va dire « aïe mm-hmm. ». Chez les anglophones, ça va être « ouch ».
Oui.
Mais qui n'a effectivement rien à voir en soi avec la douleur.
C'est
mais,
a priori
c'est
la même sensation.
Très culturel.
Mais, ouais. Intéressant.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú.
Cocina,
me gusta de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú.
Yeah.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Manu Chao qui nous chantait toutes ces choses qu'il apprécie dans la pièce Me gustas tu.
Merci Jean-Sébastien, et cela va nous plaire également de terminer cette émission avec vous, Yves Olivier.
Oui, et étant donné qu'on est dans l'appréciation, ben je vais vous parler d'un de mes artères les plus préférés de la ville de Montréal, la rue Saint-Denis.
La rue Saint-Denis.
Que vous partagez.
Bien sûr, c'est ma préférée aussi.
C'est votre. Ah ouais?
Non.
Moi qui croyais. Alors, en fait, oui, je vais vous parler de la rue Saint-Denis grâce à Suzanne Colperon de La Presse, qui nous parle donc de ce qui se passe un peu dans ce coin-là, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, entre les travaux, les réaménagements, les boutiques fermées. Arthur Quentin, la boutique phare de la rue Saint-Denis, ferme ses portes. Est-ce le début de la fin pour cette grande artère? De nouveaux commerces ouvrent, mais pas assez pour réduire le taux d'inoccupation qui s'élève à 23%. Et des obstacles bureaucratiques nuisent à la relance. Parlez-en à François Baron. Je vais donc vous parler de ce commerce-là, puis je continuerai la semaine prochaine pour parler de d'autres entrepreneurs de la rue. Arthur Quentin va fermer ses portes après 43 ans. Cette nouvelle annoncée mercredi soir aux plus clients fidèles de la boutique d'objets pour la maison risque de porter un coup dur à la rue Saint-Denis qui peine à trouver un nouveau souffle. Arthur Quentin n'est pas un commerce comme les autres. C'est celui dont l'ouverture en 1975 entre un cinéma porno et un oratoire a marqué la renaissance de la rue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est l'une des rares adresses de destination sur cette artère commerciale qui affiche un taux d'inoccupation de 23%. Privée de relève, la propriétaire Maryse Quentin a décidé à 72 ans de fermer définitivement les portes de la boutique. L'immeuble, ou plutôt les trois immeubles qu'elle possède rue Saint-Denis, mis bout à bout, donc 8500 pieds carrés au total, sont à vendre au prix de 3 150 000 $. Sur le site de l'agence immobilière CBRE, on peut dire que la propriété bénéficie d'une excellente visibilité sur l'une des rues les plus passantes de la ville et qu'elle pourrait être redéveloppée afin de bonifier le nombre d'unités résidentielles et ainsi augmenter son revenu net d'exploitation. Maryse Quentin aurait aimé trouver un acheteur intéressé à poursuivre la vocation de sa boutique, quitte à la modifier, mais ça semble être une cause perdue. Mon grand ami et premier client André Gagnon, le pianiste, m'a dit un jour « Je souhaite à Arthur Quentin une vie éternelle », rappelle-t-elle dans la lettre qu'elle a rédigée à l'intention de ses clients. « J'en suis désolé, André, mais il n'y aura pas d'éternité pour Arthur Quentin. Après 43 ans de rayonnement sur la rue Saint-Denis, le magasin va fermer ses portes. Je voulais que vous soyez les premiers à le savoir. »
Et nous poursuivrons donc cette exploration de la rue Saint-Denis la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas eu le temps non plus de vous parler de cette chèvre élue maire dans le Vermont. Donc voilà, il nous reste bien des sujets à traiter la semaine prochaine. Merci messieurs, merci Côme, merci Yves-Olivier pour cette émission. Merci également, comme d'habitude, à Jean-Sébastien La Liberté. Mise en onde, choix musicaux, ambiance musicale,
bref,
c'est important.
Batman
ambiance générale de l'émission. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Bye bye.